Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Fabrice.
Olivier Coudron, chaque mercredi, 11h midi, sur Nutri Radio. Vous êtes peut-être sur le live et j'espère que vous passez une bonne matinée. Si vous êtes en podcast, eh bien, j'espère que quoi que vous fassiez, vous en profitiez en écoutant donc cette émission et ce podcast. Donc, Neuronutrition, pour lequel on. Ce que ça vous est offert gratuitement, mais on remercie justement notre partenaire, les laboratoires, les Pivitz, laboratoire engagé pour des compléments alimentaires de qualité. C'est du Clean Label, laboratoire familial, comme on aime, on pense à eux et on les embrasse et merci de leur soutien. Olivier Coudron, le soleil dans la voie, toujours, même en plein hiver, c'est ça qui est bon. Et là, avec l'arrivée des beaux jours, ça fait double effet soleil. Et bah écoutez, on va d'abord parler de ce plan rapidement national nutrition santé qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Nouveau plan, PNNS 5. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est ça, oui, tout à fait.
C'est pas la PS5. Alors, pour les jeunes, c'est pas la PS5, ça n'a rien à voir.
Alors, PNNS 5, ça fait 6 mois qu'on l'attendait au moins, et donc je suis ravi enfin que ça puisse sortir. Pour nous aussi, c'est un grand moment. Et. Allez, mon sentiment, je vais prendre quand même quelques minutes. Je trouve que c'est, je crois, j'espère que c'est vraiment une rupture par rapport aux 20 dernières années où on a quand même eu des points de vue très bien pensants, mais pas du tout efficaces. Hein. En gros, pendant 20 ans, on nous dit, allez, il faut manger un petit peu moins, bouger un peu plus. Et voilà, c'est la solution, elle est dans vos comportements, point barre. Et on voit que ça marche pas. On a des millions de pathologies liées à l'alimentation et ça s'aggrave. On a le surpoids, l'obésité qui a galopé. Donc, c'est vraiment un constat d'échec. Et ce que je trouve bien dans le rapport est clairement expliqué par le rapport de notre ministre de la Santé et de Mathilde Touvier, c'est de clairement dire, ouais, voilà, il y a des problèmes et on les a pas gérés. Mais il y a un changement de paradigme parce que vraiment l'intention clairement annoncée, c'est d'intégrer cette notion de One Health, hein, une santé globale. Et c'est complètement nouveau. Et nous aussi, c'est ce qu'on enseigne dans nos cours depuis très longtemps, il y a une seule planète, une seule santé, une seule humanité. Et on peut pas avoir des conseils d'alimentation saine d'un côté et la malbouffe de production agricole, agroalimentaire, environnementale. Et ça, le nouveau plan, eh bien, il l'intègre. Je prends un exemple, Fabrice. L'objectif, c'est dans les 5 ans que on est 12% de consommation de produits bio. Eh ben, ça a l'air de rien, mais c'est énorme, c'est colossal. Qu'il y a également des incitants très forts pour l'agroalimentaire. On n'est pas seulement en train de dire, mesdames, messieurs, apprenez à manger des brocolis vapeur. Ça, c'est fini. Ça marche pas. C'est plutôt, on va s'intéresser aux vraies sources. Le sucre caché, c'est les filières de production, l'ultra transformation. Donc, il y a vraiment allez, je trouve une rupture importante, des points positifs, la prise en charge d'inégalités sociales, territoriales. Enfin, vraiment, il y a des choses qui sont vraiment dans le concept que nous on défend aussi, hein, l'alimentation santé durable. Hein, ça fait 15 ans que nous on l'enseigne dans nos cours et là je suis ravi parce que je me sens bien en cohérence avec des grands axes.
Alors attendez, alors mon cher Olivier, c'est vrai qu'on devait enchaîner sur un peut-être des piliers qui manquent, hein, sur ce plan, mais là je lis sous les yeux et je me dis, sans rentrer dans la politique quand même, parce que vous savez que vous êtes quelqu'un qui est très pratico-pratique, vous êtes dans l'action, mais après les politiques, sans les juger, sans les dénigrer, mais malheureusement on sait que parfois des effets d'annonce ne sont pas toujours suivis de mise en action. Par exemple, vous dites, un des axes du plan, c'est d'augmenter de 12% la consommation de produits bio.
Oui.
D'accord. Donc, augmenter la consommation de 12% de produits bio, je pense que si tout le monde pouvait manger bio, les gens le feraient. C'est une question de moyens. Ça veut dire qu'ils vont, quoi, ils vont détaxer la filière bio pour en permettre d'avoir des produits plus accessibles pour tout le monde ?
Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et en effet, il va y avoir dans un premier temps des incitants, c'est-à-dire on va partir sur un rapprochement plus fort avec l'agroalimentaire, avec des incitants volontaires, hein, par exemple, beaucoup plus affichés. Allez, on critique plus ou moins, peu importe, c'est pas là le sujet, mais le Nutri-Score, mais il devrait être affiché à 75%. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y aura des incitants à mettre moins de sucre, moins de sel. Ça fait 20 ans qu'on en parle. On va continuer cet engagement. Parce que, allez, soyons clairs. Depuis, je vais prendre un exemple concret parce que ça concerne nos auditeurs. Il y a, allez, depuis que je suis le PNNS, moi ça fait depuis le début finalement. Il y a 14 ans, 15 ans à peu près, les industriels, notamment les grandes surfaces, la grande distribution, s'étaient engagés à ne plus mettre des bonbons, des confiseries devant les caisses. Alors, on connaît tous l'importance de cette histoire-là. On arrive avec notre caddie, on a fait les courses, on est avec les enfants, c'est le samedi ou je ne sais quand. Et puis, il y a les bonbons de toutes les couleurs. Et ben, les enfants, ils sont tentés. C'est en plus à hauteur de vue. Ça, c'était clairement un engagement, il y a 14 ans, de ne plus les mettre hein, devant les caisses. Et là, il y a un engagement plus fort en disant, attention, ça va vraiment disparaître. Et si vous ne le faites pas, alors... le PNS qui est clairement dit, on va légiférer, ça sera une loi. Et ça sera plus une question de volonté, ça sera une obligation légale avec coercition. Voilà, donc il y a des pistes. Allez, je croise les doigts, je vais être très positif, parce que vous savez, hein, être positif, c'est aussi un moteur de changement.
Ah, vous avez... donc, c'est vrai, vous avez raison.
Voilà, voilà. Donc il faut voir le bon côté des choses. Je trouve et je veux croire que ça va dans le bon sens. Et je pense que les gens qui dirigent aujourd'hui ce plan, notamment Mathieu Touillet, bah, c'est juste fantastique. Donc voilà, on y croit, je suis ravi, même si, comme vous le disiez, bah, voilà, il y a des aspects que j'aurais tellement souhaité voir intégrés qu'ils ne le sont pas encore.
Alors, et on va en parler dans un instant, mais je voudrais aussi rebondir là-dessus, parce que je le vois, mais je suis choqué. Moi, personnellement, je vois ça, je suis un peu choqué, non pas pour les bonnes parties, mais par exemple, pour ce qu'on nous a dit de faire avant. Et c'est là où on est obligé de prendre, d'avoir beaucoup de recul sur même ce qu'on nous dit maintenant. Et c'est bien que des gens comme vous soient en amont et on vous donnait peut-être tort ou on se disait il y a plusieurs années, ben non, c'est pas si important que ça. Alors que oui, c'est important. Par exemple, parmi les priorités, l'accent est mis sur la promotion de l'allaitement maternel. On rêve. C'est un truc, je lis oui. Ça, je deviens fou parce que pendant des années, on nous expliquait que, ben non, mais tenez, prenez du lait en poudre, c'est pareil. Il fallait pas allaiter son enfant, etc. Combien de mères ont arrêté d'allaiter l'enfant parce qu'on leur a dit que c'était pas important? On les a incités même à ne pas allaiter parfois dans les hôpitaux.
Oui, oui, voilà. Ben, en France, on est vraiment des mauvais élèves hein, là-dessus. On est très, très en retard et on sait aujourd'hui, de façon scientifique, formelle, combien c'est important pour la santé maternelle, pour la relation de ce couple mère-enfant et pour la santé de l'enfant. Et donc, le plan national prévoit réitère plus exactement le projet des 1000 jours. C'est un grand chantier. Les 1000 jours, c'est les mois qui précèdent la conception du bébé avec le couple parental. C'est la conception et la grossesse. Et puis, c'est les deux premières années de vie de l'enfant. Donc, c'est 1000 premiers jours depuis l'idée et le projet de bébé jusqu'à sa deuxième année, eh bien, est mis en avant. Et on sait que là se joue ce qu'on appelle les déterminants épigénétiques. Se joue la programmation de la santé à venir à 30, 40, 50 ans. C'est dans ces premiers moments de vie que vont se jouer des déterminants comme le diabète, comme un certain nombre de problématiques neuropsychiatriques, neurodéveloppementales, etc. Voilà, donc oui, l'allaitement maternel, c'est énorme, c'est juste tellement énorme. Je suis un peu comme vous choqué qu'on ait encore besoin de le dire. Mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Par exemple, l'importance de ne pas consommer d'ultra transformés de façon excessive. On est, depuis 15 ans, devenu vraiment dans une dérive, on voit une dérive de cette surconsommation et ça a un impact sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur la santé en général, sur la santé psychiatrique. Hein. Aujourd'hui, c'est documenté. On en parlait encore sur cette antenne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il y a des grands axes qui se réaffirme et tout n'est pas parfait, mais je crois, hein, j'ose croire, je veux croire qu'il y a une volonté plus mieux centrée, mieux positionnée.
Ouais. Alors oui, non mais franchement, je dis ça, je vois. Le développement de l'activité physique et des mobilités actives. Pendant le Covid, ils nous ont enfermé tout le monde, les enfants. La réduction de la sédentarité, en particulier du temps passé devant les écrans. On leur met des trucs plenotes, on leur donne des tablettes à l'école. Enfin bref. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on dit qui sont au contraire de ce qui est fait, en vérité. Hein.
Voilà, d'où l'importance. Alors vraiment, d'où l'importance d'avoir des émissions comme celle-ci, d'avoir des enseignements comme Ossine, d'avoir des universités qui parlent d'alimentation saine et durable. Voilà. Aujourd'hui, le pouvoir politique, il prend des positions. Et voilà, j'espère que ces positions seront mieux suivies, plus ouvertes. Et puis, il y a bien d'autres relais. Hein. On ne va pas compter sur le gouvernement pour nous dire tout. Je crois qu'il faut être aussi proactif. Surtout que, et alors on en parlait juste avant cette ouverture d'antenne, mais je compare avec le plan national qui est sorti en Suisse l'année dernière. Et nos voisins suisses, eux, ils ont intégré dans la nutrition santé, alors ils ont bien sûr l'activité physique, ça tout le monde est d'accord depuis très longtemps. On peut pas parler de l'assiette si on parle pas des dépenses, du mouvement, de la sédentarité. Mais ils ont intégré aussi deux choses que là, j'avoue, un peu triste, un peu déçu de pas les voir clairement apparaître. La chrononutrition, donc l'importance du timing des repas, ça s'est pas clairement positionné alors qu'on sait aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose de fondamental, un déterminant important. Et puis, le sommeil dont je voulais vous parler aujourd'hui. On dérive, on parle de plein de choses.
Mais non, mais c'est parce que c'est intéressant ce plan. On en reparlera d'Ascenseur Nutri-Radio, évidemment.
Oui, allez,
merci,
allez.
Mon cher Olivier. Et donc, on va parler du sommeil. Et comme on a un peu tardé pour cette première partie, peut-être qu'on va axer vraiment sur l'alimentation qui peut tout changer en ce qui concerne le sommeil. Vous êtes d'accord, mon cher Olivier?
Eh bien, pas du tout.
Pas du tout, très bien.
Alors, pas du tout.
On fait une pause et vous ferez l'émission que vous voulez. Je serai là pour vous accompagner.
C'est gentil, c'est gentil.
Je serai là pour vous accompagner le mieux possible. Petite pause et on se retrouve après ceci.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lépivitz. Lépivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clean Label aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandés par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lépivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lépivitz.fr. Lépivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
La suite de cette émission avec Olivier Coudron qui fait bien ce qu'il veut et il a bien raison, c'est son émission. Et donc, on parlait de ce plan national de nutrition santé, on a un petit peu commenté en espérant des jours meilleurs avec des directions qui semblent pas mal, mais avec des grands oubliés comme le sommeil par exemple.
Absolument. Alors je plaisantais un petit peu en disant non, on va pas se limiter à l'alimentation, parce que justement, on peut pas mettre les outils dont on dispose pour améliorer le sommeil dans des tiroirs cloisonnés en dehors d'autres outils. Alors déjà, en un mot, rappeler l'importance du sommeil. L'importance, c'est pas un temps perdu, c'est un temps gagné dans la qualité de vie, dans l'efficacité, dans le moral, dans l'efficacité intellectuelle, sportive, à tous les niveaux. Nous avons besoin de 8 heures de sommeil en moyenne. Il y a quelques personnes qui ont besoin un petit peu plus, d'autres un petit peu moins, mais globalement, allez, restons raisonnables, autour de 8 heures. Et la dette en sommeil, c'est-à-dire manquer de temps de sommeil pour plusieurs raisons, c'est vraiment un impact sur notre bien-être, nos performances. Il y a deux grandes causes au manque de sommeil. La première qui est volontaire, mais non intentionnelle, c'est-à-dire que je choisis de moins dormir, par exemple de me coucher tard, de regarder un film à la télé, de lire un beau roman, de travailler, que sais-je. Ça, c'est finalement une privation de sommeil que je décide. Mais j'ai évidemment pas l'intention de me faire du mal, mais c'est une négligence, c'est de ne pas mettre la priorité du sommeil au cœur de ma vie. Donc ça, c'est la première cause, elle est importante. La deuxième, ce sont les insomnies. Alors, les gens qui aimeraient bien dormir plus, mais qui s'endorment tard, ou qui se réveillent plusieurs fois la nuit, ou qui se réveillent trop tôt le matin. Donc ça, les insomnies, ça affecte, les chiffres varient, mais on va dire une personne sur trois quand même. Hein. On parle là de choses énormes. Et quand on connaît l'impact de ce sommeil sur l'immunité, sur le cerveau, sur la santé métabolique, sur le surpoids. Hein, sur le surpoids, c'est déterminant majeur. Eh bien, on a envie de faire mieux et c'est ce que j'ai envie de partager dans les 3 minutes qui nous restent.
Eh bien, même un peu plus, hein, si vous voulez, allez-y pour développer, évidemment, c'est déterminant.
Alors, voilà. Le premier, en effet, il est alimentaire. Je pense que c'est important de remettre l'assiette et son rôle dans le sommeil. Le premier conseil qui est validé aujourd'hui, c'est de manger léger le soir. C'est peut-être trivial et banal, mais j'aimerais bien le redire, un repas léger. Or, depuis plusieurs décennies, on a une dérive. On prend plus de petit déjeuner ou alors il est vraiment très, très léger, il est mal structuré. Et on prend un gros repas le soir en famille et parfois même il est tardif. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut renverser la pyramide, si je puis dire, un gros petit déjeuner riche en protéines, en glucides complexes, en fibres, en eau, en hydratation. Ça, c'est la base. Et le repas du soir doit être le plus tôt possible, 18h, 19h, 19h30, mais pas plus tard. Ça, c'est l'idéal. Hein. Si on peut choisir, c'est ça qu'il faut choisir. Quand on ne peut pas, eh bien, il y a d'autres leviers. Mais
et pourtant, ça, c'est... Mon cher Olivier, oui. Je me permets de rajouter ça, et vous avez raison, 19h30, 19h, bon 18h ça fait peut-être un peu tôt, mais bon peu importe, vous avez raison de toute façon, parce que c'est la science qui parle, 19h30, mais on voit que les restaurants ils ouvrent à 20h, vous voyez, donc déjà manger au resto à 19h30, c'est pas évident.
C'est sociétal, y a des pays, en Angleterre, en Allemagne, où on décale beaucoup plus tôt, donc ça dépend un peu des sociétés, des modèles, et c'est vrai qu'on peut déplorer que nous en France, on a pris cette habitude tardive. En Espagne, c'est encore plus tard. Donc, ça dépend un peu des modèles de société. Au niveau individuel, au niveau de la famille, quand on a des enfants, des adolescents, ou même pour nous, adultes, eh bien, c'est important si on a le choix. Parce que on choisit pas toujours ses horaires de travail, hein, Fabrice. Mais quand on a le choix, eh bien, l'optimum, l'efficacité sur le sommeil, la santé en général, c'est de manger tôt. Ça, c'est une recommandation qui est solide au niveau scientifique, le plus tôt possible. Léger, pas des gros repas copieux, puisqu'on aura pris la vraie densité nutritionnelle plus tôt dans la journée, si on peut, encore une fois. Et puis, un laps de temps qui doit être au moins 2 heures et idéalement de 3 heures entre la fin du repas et le coucher. Voilà. Ça, c'est des repères qui sont validés aujourd'hui scientifiquement et qui améliorent le sommeil.
Bon, ça, c'est, je pense que... Même si on ne le fait pas, on en a conscience. Après, c'est des déclics. Hein. Il y en a, c'est à force de répéter qu'à un moment donné, on passe à l'action. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser ce sommeil, mon cher Olivier ?
Alors, ce repas du soir, il doit déjà avoir plutôt des aliments glucidiques complexes, pas des sucreries rapides, tout simplement, parce que le soir, notre sensibilité à l'insuline qui gère le sucre qui arrive dans l'assiette et dans le sang, eh bien, cette sensibilité, elle décroît. Ce qui fait que si je prends des sucreries le soir, et surtout tardivement, après 21h, devant un plateau télé, etc., eh bien, ce sucre qui arrive dans le sang, j'aurai du mal à le gérer. Il va monter. Après, il va descendre, et parfois il descend un petit peu trop bas, et là on est dans les 2-3 heures du matin, et là on a une hypoglycémie, une chute de glucose dans la nuit, et cette hypoglycémie, cette chute de la glycémie nocturne, ça s'accompagne évidemment d'une réponse. L'organisme déteste cela pour le cerveau, qui travaille beaucoup la nuit, il va provoquer une réaction d'adaptation, le cortisol augmente, et le cortisol, eh bien, c'est notre hormone d'urgence, qui va augmenter la glycémie, qui va réparer les dégâts, mais qui nous réveille. Et oui, ça, c'est un peu la locomotive de l'éveil. Donc, ne pas manger de sucreries tardivement, c'est déjà une très, très bonne habitude pour les réveils nocturnes.
Même du chocolat 85%, tout ça, non ? Un petit carré de chocolat.
Oh, là, il n'y a pas beaucoup de sucre. Là, il y a très peu de sucre dans le chocolat à 80%. Donc, voilà, c'est une question de quantité et de régulation du pic de glycémie. C'est pas zéro sucre. Hein. Là encore, faut pas être orthorexique, mais c'est plutôt éviter de manger des produits très sucrés, de voir des apports glycémiques tardif, vraiment important. Et c'est pas l'habitude, hein. Il y a beaucoup de gens qui mangent trop tard et trop sucré. Ça, c'est le premier élément. Et puis, ce repas du soir, il doit apporter idéalement un petit peu de glucides complexes, aussi des protéines végétales, ça, c'est vraiment l'idéal. Et il doit être une source à la fois d'acides aminés, de tryptophane, de vitamine B6, de vitamine B9, de magnésium. Et tout ça, ça va nous permettre de fabriquer des neurotransmetteurs du sommeil, comme la sérotonine et puis la mélatonine. Mais aussi, on a besoin d'autres neurotransmetteurs sédatifs, calmants, tranquillisants, notamment ce qu'on appelle le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur extrêmement abondant dans le cerveau. Et c'est l'un des grands neurotransmetteurs qui nous permet de nous calmer, de nous tranquilliser, de trouver le sommeil. Hein. D'ailleurs, là-dessus qu'agissent les médicaments du sommeil, les hypnotiques, beaucoup d'hypnotiques sont des benzodiazépines, hélas. Et je dis hélas parce que ça a des effets secondaires, mais ça agit sur le GABA. Nous avons dans l'assiette un moyen naturel d'agir sur le GABA et c'est ce repas un peu léger, mais aussi un micronutriment exceptionnel pour le sommeil, c'est le magnésium. Magnésium très important.
D'accord, donc on peut se dire que si on fait tout bien, on a mangé 3 heures avant de se coucher, pas trop tard, pas trop lourd, avec pas trop de sucre, on prend un peu de magnésium et un peu de GABA peut-être, et on dort bien.
Le GABA, vraiment, me paraît pas très intéressant, pour être très franc. Le magnésium fait vraiment le travail beaucoup plus de façon intéressante. Il passe la barrière, le GABA, c'est moins certain que ça. Alors, des petites doses, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Fabrice. Hein. Les essais cliniques montrent que c'est à partir de 300 mg de magnésium le soir. On va choisir le magnésium qui passe bien le cerveau. Hein. Le tréonate, par exemple, le tréonate de magnésium. Si on peut faire un choix pour le sommeil, je privilégierais plutôt ce tréonate de magnésium. 300, 400 mg ou un bisglycinate de magnésium, ce sont des molécules qui vont bien passer et être bien biodisponibles pour le cerveau. Et c'est à ces doses-là qu'on a vraiment un effet très, très bien validé dans la littérature scientifique sur l'induction du sommeil. On parle quand même de 40 minutes à une heure de sommeil en plus et de bonne qualité. Hein, donc, on n'est pas dans des détails, là.
Et forcément, bon ben voilà, la mélatonine, on en prend, on n'en prend pas ?
Très intéressant. Mais là, on est déjà dans les corrections de déséquilibre. On n'est pas dans l'optimisation. Quand on est jeune, on va dire moins de 50 ans, allez, sincèrement, il n'y a pas forcément de raison de prendre de la mélatonine. Mais par contre, et merci de me donner cette introduction, il y a de bonnes raisons de la protéger, notre mélatonine. Alors comment ? La première raison, c'est de ne pas regarder d'écran le soir, dans l'heure ou l'heure et demie, les 2 heures qui précèdent l'endormissement. La lumière, c'est l'ennemi numéro un de la mélatonine de notre cerveau. Et si on regarde des écrans, les smartphones, si on regarde Instagram le soir, dans son lit, eh ben c'est une catastrophe pour la mélatonine, quel que soit l'âge. Les ados, les jeunes adultes, les plus âgés, ne regardez pas les écrans le soir, s'il vous plaît.
Et ben voilà. Et juste pour le magnésium sous forme d'électronate ou bisglycinate, on peut aussi 300 mg le soir. Alors évidemment, ces informations de toute façon, on parle pas de maladie, donc il y a pas de problème. Mais avant de démarrer de la complémentation, allez, rapprochez-vous de votre professionnel de santé quand même. Mais sur le magnésium, on peut en prendre 300 mg le soir et aussi le matin. Ça fait 600 mg par exemple. Il y a pas de
Oui, il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas de toxicité. Et au pire, si on dépasse les doses dont l'organisme et les cellules ont vraiment besoin, il sera régulé et éliminé sans aucun problème. C'est un petit ion qui est très bien régulé. Donc, il n'y a pas de toxicité. La seule limite, c'est de vouloir trop en prendre en une seule quantité, une seule prise, et de saturer la capacité d'absorption. Et là, il se retrouve dans l'intestin et ça peut donner des diarrhées. On voit ça surtout avec les anciens sels de magnésium, hein, le sel marin,
l'oxyde.
Le chlorure, les oxydes, les sels de magnésium marin, qui, si on en prend trop, vont donner un effet laxatif. Voilà, et c'est ça le problème. Mais c'est pas toxique, c'est vraiment, vraiment innocent, si je puis dire.
Eh bien, merci beaucoup, mon cher Olivier. On va pas se retrouver la semaine prochaine, parce que là, il y a des vacances, donc on va faire un petit best-of, mais on se retrouve très rapidement, bien évidemment, en pleine forme. Prenez soin de vous, chers auditeurs, vous aussi, mon cher Olivier. Et si vous venez d'arriver, eh bien, on met l'émission en podcast dès à présent sur Nutri Radio et sur toutes les plateformes pour que vous puissiez tout réécouter, parce que c'est vrai que sur le live avec la musique, parfois, on est un petit peu plus distrait, puis on a envie de se dire, bah tiens, je vais réécouter ça tranquille le soir ou en faisant mon sport. Donc allez-y, profitez-en, puisqu'on la met maintenant. Merci Olivier, à bientôt.
Bientôt.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, restez avec nous.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.